Il est difficile de parler d'un tel sujet sans entrer dans des problèmes que l'on dit être de politique. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord que les choses soient très claires. Il n'est pas question, pour moi, d'essayer de faire le procès du judaïsme libéral, bien que l'on va être amené à en parler. Il n'est pas question d'exclure ou de proclamer un anathème sur une partie du peuple juif. Chacun, on pourrait dire, a le judaïsme qu'il peut, très souvent le judaïsme qu'il veut. La pratique des mitzvot est laissée à la personne elle-même, elle est seule juge, et la seule chose que nous pouvons faire, mais que nous devons faire, c'est d'essayer d'étudier ce que la Torah elle-même pense du problème mioudi qui est juif, sans essayer de prendre une attitude qui soit contre l'un ou contre l'autre. Ici, nous ne traitons que d'opinion. Quelquefois, nous serons amenés à rejeter ou à confirmer telle et telle opinion. Il ne s'agira jamais de personne, mais seulement d'opinion. La première chose, c'est que nous devons constater qu'il y a aujourd'hui une question. La question, c'est mi ou yehudi, qui est juif? Cette question, depuis de nombreuses années déjà, fait l'objet de grands débats, surtout en Eretz Israël. Et nous sommes obligés de constater que c'est une question récente. C'est une question qui ne s'est jamais posée dans le peuple juif et qui n'a commencé à être posée que voici quelques dizaines d'années. On va essayer aussi de savoir pourquoi. Il y a quelques dizaines d'années, c'est certain, au siècle dernier, personne n'aurait jamais posé une question pareille. Tout le monde savait, mais où Yehudi qui est juif, celui qui est né d'une mère juive ou celui qui s'est converti au judaïsme. C'est un problème qui n'a jamais existé dans toute l'histoire du peuple juif. Et en essayant de savoir, de comprendre pourquoi la question se pose maintenant, on va essayer d'exposer justement ce qui, à travers les âges, à travers les millénaires, a été quelque chose de simple, c'est-à-dire la définition de mi ou yudi qui est juif. Nous avons dit qu'il y a deux façons d'être juif ou d'être né d'une mère juive. Nous nous devrons donc essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi de mère juive et non de père juif. Et deuxièmement, la conversion, et cela aussi nous devons expliquer ce qu'est la conversion selon la Torah. La raison pour laquelle cette question ne s'était jamais posée et ces deux définitions n'ont jamais été mises en cause, c'est parce que la conscience juive était imbibée d'une parole qu'a exprimée il y a un millénaire Rabbi Saadia Gaon. Il disait « En umatenu uma ela betorata ». Notre peuple n'est une entité, n'est une nation que par sa Torah. Il n'y a rien d'autre qui relie les différents éléments, les personnalités diverses du peuple juif. Il n'y a rien d'autre qui peut les relier que la Torah. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah te parle, Achicha parle de ton frère, la Mishnah nous dit, ton frère c'est Achiv b'mitzvot, celui qui est ton frère dans la mitzvah, dans l'acceptation de la Torah. Et cela est résumé par cette phrase de Rabbi Sadia Gaon, En uma tenu uma ela betorata. Nous n'avons pas d'autre définition. Betorata, par sa Torah, ça veut dire par la reconnaissance du fait que Dieu qui nous a sortis d'Égypte, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, Dieu qui nous a sortis d'Égypte, est apparu à nos pères au mont Sinaï et leur a livré, leur a transmis la Torah, leur a transmis les commandements. Et tout celui qui n'était pas au mont Sinaï, tout celui dont les pères n'étaient pas au mont Sinaï, le Midrash nous dit, Apetar Patourach dans Bereshit Rabba nous dit, Apetar Patourach, la porte est ouverte. Kol Misherotseli Kanes Ikanes, tout celui qui veut rentrer peut rentrer. En umatenu umaila betorata veut dire que lorsque l'on veut devenir juif, on le peut en faisant le même processus que celui qui était celui de nos pères, c'est-à-dire en acceptant les commandements de la Torah. Tout celui qui veut l'ikanes veut rentrer, c'est-à-dire qui veut faire partie du peuple juif. Il n'y a, dit Rabbi Sadia Gaon, qu'une chose à faire. Umatenu, notre peuple, c'est le peuple de la Torah. Accepte la Torah, prends sur toi la pratique des mitzvot, et tu es juif. Cette définition donc tendrait à nous faire penser que celui qui ne pratique pas les mitzvot, celui qui ne pratique pas ce qui est marqué dans la Torah, n'est pas un juif. Et là, qui est-ce qui peut être juge envers ses frères et peut dire, toi tu ne pratiques pas les mitzvot, tu ne les pratiques pas de la façon par laquelle la Torah a été promulguée au mont Sinaï et tu n'es plus juif. C'est pour ça que nous dit la Gemara, nous dit le Talmud, Israël Shechata, Afalpi Shechata, le juif, bien qu'il ait fauté, bien qu'il n'ait pas pratiqué la mitzvah, Israël, c'est un juif. C'est vrai que la seule chose qui nous lie, ça n'est pas notre ascendance. Ce qui nous lie, ça n'est pas une race, c'est la Torah. En umatenu uma ela betorata, c'est vrai. Mais qui va être juge? Qui va ici se mettre à calculer et à savoir quand un juif se comporte comme un juif et quand il ne se comporte pas? Qui est-ce qui va pouvoir mesurer à chaque instant quand un juif cesse de l'être et quand le redevient-il? C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné une autre façon d'être juif encore. Une façon qui fait que je ne dépende pas du jugement de l'autre. D'une façon qui fait que je ne dois pas amener dans la corbeille une quantité de mitzvot. Je ne suis pas obligé de prouver que j'adhère au commandement de la Torah. Il y a aussi un judaïsme de naissance. Ce judaïsme-là, ça n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham Avinu, il lui a dit, Ani, moi, Hine, voici, je te donne Briti, mon alliance, Vaïta Avamon Goïm, et tu seras Avamon Goïm, le père de beaucoup de peuples. Sous-entendu, beaucoup de peuples y viendront et s'agrégeront à ta descendance. Cette alliance a été donnée à Dieu, par Dieu à Abraham, mais pas seulement à Abraham, elle a été donnée pour la descendance d'Abraham. Va'akimoti et Beriti, et je soutiendrai mon alliance, Beni ou Benecha, entre moi et toi, dit Dieu, ou Ben Zaracha Harecha, et entre ta descendance après toi. Il y a une façon d'être juif qui est l'œuvre de l'homme, c'est celle d'observer la Torah. Mais il y a une autre façon encore d'être juif, c'est celle de faire partie de Zaracha, de la descendance d'Abraham Avinu. L'alliance qui a été conclue, le brit qui a été fait entre Dieu et Abraham Avinu, ça n'est pas seulement entre Dieu et Abraham, mais entre Dieu et toute la descendance d'Abraham Avinu. Cette qualité de juif-là, personne ne peut la renier. C'est celle qui est le produit de l'histoire, qui était écrite par Dieu. Ou ben Zaracha Harecha, c'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui dira s'il existe une descendance ou il n'en existe pas. C'est lui qui dira s'il vivra cette descendance ou elle ne vivra pas. Cette qualité de juif-là, c'est celle qui a été donnée par Dieu. C'est celle de l'histoire. On est donc juif par ascendance aussi. Et même si on ne pratique pas la mitzvah, on reste juif. Ça, c'est un pôle. Mais il y a un deuxième pôle, c'est celui Avamon Goyim. Tu seras le père de nombreuses peuplades, de nombreux peuples. Tout celui qui veut faire partie du peuple d'Israël le pourra. Seulement ça, ça n'est plus être juif par ascendance. Ça n'est pas être un juif désigné par Dieu, c'est un juif qui veut l'être. Et vouloir être juif, en umatenu uma ela betorata. C'est la deuxième façon d'être juif, c'est celui qui pratique les mitzvot, qui refait la même démarche que celle que l'on fait nos pères, qu'on fait nos pères au moment du Har Sinaï, au moment où Dieu nous a donné la Torah, c'est celle d'accepter la Torah. Celui qui recommence une histoire, mais qui la recommence, pas parce qu'elle a été écrite par Dieu, mais parce que lui maintenant veut l'écrire. Il ne sera pas juif par ascendance, mais il sera juif parce que son comportement et son adhésion, c'est une adhésion au judaïsme. On ne peut pas adhérer à une descendance. On ne peut pas être la descendance de Avraham Avinu, on ne peut pas l'être. Mais on peut être, et ça c'est le deuxième pôle, on peut être celui qui pratique la Torah et les mitzvot. Et ce judaïsme-là, c'est le judaïsme qui est défini par Rabbi Sadia Gaon. Bien que celui qui est né juif, Israël afalpi shechata Israelu, bien que celui qui est né juif, quoi qu'il fasse, le restera toujours, parce qu'il a été désigné en tant que Zaracha, la descendance d'Abraham Avinu. C'est une histoire qui a été écrite par Dieu. Il y a une deuxième façon d'être juif, c'est celle qui consiste à accepter la Torah, à vivre selon la Torah. En umatenu uma ela betorata. Pour la suite du raisonnement, nous devons donc avoir présent à l'esprit ces deux choses-là. Il y a une éthique, il y a une façon de vivre qui définit le judaïsme, qui est celle de l'acceptation de la Torah et des mitzvot, de la pratique de la Torah et des mitzvot. Et il y a une, on ne pourrait pas dire une nature, mais une descendance d'Abraham Avinu, qui, elle, sera toujours juive, même si elle ne pratique pas les mitzvot. L'un, on le désignera comme le juif désigné par Dieu, le juif déterminé, ou ben zaracha harecha, C'est une alliance dans laquelle nous n'avons pas choisi de rentrer. Ceci est notre déterminisme. Et il y a l'autre, celle que nous choisissons, c'est la Torah. La pratique de la Torah, la pratique des mitzvot, celle-ci, c'est celle que nous choisissons d'assumer. Et celui qui veut faire partie du peuple d'Israël ne pourra faire partie que de cette catégorie-là, non du juif désigné par HaKadosh Baruch Hu, désigné par Dieu, du juif de l'histoire, le juif déterminé, mais de celui qui adhère à une pratique, à une acception de la Torah. Ça, c'est la première donnée. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Le Midrash nous dit que la porte est ouverte. Kol harotze l'ikanes, tout celui qui veut rentrer, ikanes. Il faut donc rentrer. Celui qui dit rentrer dit faire un acte. Il faut faire quelque chose. Se faire quelque chose, nous l'appelons la conversion. Se faire quelque chose, nous disons que ça ne peut passer qu'à travers la Torah. À travers ce que nous avons de commun, si nous n'avons pas de commun l'histoire. Nous voyons que le Midrash dit « Yikanes ». Il faut donc faire quelque chose. Et là, va se poser un grand problème. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont d'accord de partager ce qu'ils appellent notre destin, de partager notre avenir, puisqu'ils ne peuvent pas partager notre passé. Mais qui ne pensent pas que la pratique des mitzvot soit indispensable aujourd'hui. Lorsqu'un juif pense et se conduit de cette façon, il peut penser que la pratique des mitzvot n'est pas indispensable aujourd'hui. Et nous dirons Israël Shechata, Afalpi Shechata, bien qu'il faute. Israël où ? C'est une chose qui le regarde, qui ne nous regarde pas. Mais lorsque quelqu'un vient de bonne foi, vient nous dire, puisque cette porte est ouverte, je veux rentrer. Que veut dire rentrer ? C'est ce qu'on appelle la communauté de destin. Je veux faire partie du peuple juif. Et là, si nous poursuivons notre raisonnement, cette porte est fermée. Parce qu'il n'y a pas de destin de peuple juif, il n'y a qu'un passé. L'avenir, nous avons dit que tout celui qui veut faire partie, il ne pourra jamais être juif déterminé par l'histoire. Il sera obligé d'écrire lui-même sa propre histoire. Comment va-t-il l'écrire ? Il va l'écrire comme l'ont fait nos pères lorsqu'ils ont dit « Naase venishma », nous prenons sur nous la Torah, les mitzvot, venishma, et nous les étudierons. Faire partie du peuple juif, c'est une chose qui n'existe que de deux façons, avant nous dit. Ou Enumatenu Uma Ela Betorata, c'est-à-dire observer la Torah, avoir ceci en commun avec le juif, la Torah. Mais d'avoir le même passé, c'est une chose impossible. Et le destin du peuple juif, entre parenthèses, que l'on veut épouser, c'est un petit peu dire le passé du peuple juif. Ça, c'est impossible. Et on pourra même aller très loin. Et on pourra nous dire qu'il y a des gens qui ont essayé de se convertir ou qui se sont convertis, entre parenthèses, et qui ont été des martyrs, qui sont prêts à mourir pour l'idéal de la Torah. Et selon notre raisonnement, nous serons obligés de leur dire qu'il y a là une équivoque. On ne peut pas défendre quelque chose lorsqu'on n'y participe pas. On ne peut pas défendre au prix de sa vie l'idéal de la Torah lorsqu'on ne pratique pas cet idéal. On ne peut pas défendre un passé que l'on n'a pas, qui n'est pas le sien. On ne peut défendre qu'un idéal qui est le sien. Et si cet idéal n'est pas bon pour vivre, alors il n'est sûrement pas bon pour mourir. Et là, on est obligé de parler de quelque chose de douloureux, mais qui doit être sans équivoque aucune. Le martyrologue juif a toujours été le renoncement de la vie face à l'impossibilité de la pratique de la mitzvah. Lorsque le juif s'est vu dans l'impossibilité, dans un choix qui était ou de renoncer aux mitzvot, à la Torah, ou de renoncer à sa vie, il a toujours préféré renoncer à la vie. Et c'est pour ça qu'on est obligé de comprendre et de dire que le martyr du juif, c'est une façon de vivre en juif et pas une façon de mourir en juif. La mitzvah, ce que la Torah m'ordonne, elle me l'ordonne au péril de ma vie. Celui qui est un martyr, et tous les martyrs que nous avons eus à travers les millénaires de l'histoire du judaïsme, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie à la mitzvah, au commandement, à la pratique. Si le judaïsme, tel qu'il nous a été donné au Mont Sinaï, il n'est pas nécessaire de le vivre, il n'est sûrement pas nécessaire de mourir pour qu'il puisse exister. Et là, on est obligé d'être très dur et de dire, la communauté de destin, c'est-à-dire de vouloir épouser le destin du juif même jusqu'au martyr, ça ne peut exister et ça n'est valable que pour celui qui, dans la vie de tous les jours, vit selon les pratiques de la Torah. Mais celui qui ne vit pas selon ses pratiques, il n'aura jamais l'occasion de mourir pour elle. On ne peut donc pas, et là c'est une équivoque qu'il faut lever une fois pour toutes, on ne peut pas faire partie de ce destin du peuple juif, et on sera obligé de dire d'une façon laconique, on ne peut pas mourir en juif si on n'est pas d'accord de vivre en juif. De faire partie du destin d'Israël, c'est devenu une notion vide de sens. Ça, c'est une chose qui doit être très claire. Il y a une autre donnée encore qui doit être claire. Nous avons dit que le judaïsme se transmet par la mère et non par le père. Cette histoire qui est écrite par Dieu, Ben Zaracha Acharecha, qui a été dit à Avraham Avinu, cela a été dit, et vous regarderez dans le verset là-bas, dans Bereshit, Vakimoti et Beriti, lorsque Dieu dit, je tiendrai, je soutiendrai cette alliance, Dieu dit, Librit Olam, c'est quelque chose qui est valable pour l'éternité. Lorsque la Torah, dans Bemidbar, le quatrième livre de la Torah, au chapitre 16, la Torah nous dit, Chukat Olam le Dorotechem. Là-bas, on parle de la conversion. Chukat Olam. C'est quelque chose d'éternel de nouveau. Kachem Kager. De la même façon que vous êtes juifs, de la même façon, le guerre, celui qui se convertit sera juif. Et il y a beaucoup d'alachot, il y a beaucoup de pratiques dans la façon de convertir et dans la conversion elle-même qu'on apprend de ce verset. Kachem, kager. Kachem, comme vous, kager, ainsi sera l'étranger. Ce n'est pas quelque chose qui est une donnée historique et qui n'est plus valable aujourd'hui. Chukat Olam. Olam veut dire l'éternité. Vous savez qu'en hébreu, Olam veut dire aussi le monde. Olam en hébreu défini est l'espace et le temps. Ce sont les deux données qui appartiennent à Dieu, dont il est maître. Olam, Melech HaOlam, nous disons dans chaque bracha, le maître du monde, c'est l'espace. Chukat Olam, Berit Olam, veut dire l'éternité à tout jamais, le temps. Le temps et l'espace, ce sont deux notions dont nous reconnaissons le fait que Dieu les a créés. Et quelquefois, ces deux notions, l'espace et le temps, cachent Dieu lui-même. C'est pour ça que le mot Olam vient du mot He'elem, voilé. On peut examiner la création, on peut regarder l'espace et le temps et ne pas y voir Dieu. Mais nous, et c'est ça la donnée constante du judaïsme, que Dieu est celui qui peut dire Adolam. Et Dieu est celui qui est Melech Haolam. Nous disons que le Zaracha, la descendance d'Avraham Avinu, la descendance de ceux qui ont été au pied du mont Sinaï, elle va être inscrite dans l'histoire à travers la mer. Vous savez qu'en hébreu, la différence entre le fils et la fille, l'homme et la femme, c'est que le fils, l'homme se dit ben, alors que la fille, la femme se dit bat. Ben, c'est celui qui construit. Binyan, la construction. Bat, ça vient du mot baït. Ça veut dire l'espace. Ben, bonnet, lorsque l'on crée, on construit quelque chose, on lui donne du temps. Baït, on lui donne un cadre, on lui donne l'espace. Lorsque Dieu a promis à Abraham Avinu que sa descendance ad olam jusqu'à la fin des temps pour l'éternité, c'est une notion de temps, de olam, d'éternité, de binyan, de construction. Mais la Torah nous dit que l'enfant est le fils de la mère en premier lieu, de l'autre olam, de la notion d'espace, baït. C'est pour cela que nous avons un principe dans le Talmud, Ubar Yerech Imo, l'enfant est une partie de la mère. Ubar, le fœtus, Yerech Imo fait partie du corps de la mère. C'est son espace. C'est son lieu. Toute sa vie sera peut-être consacrée à se trouver un nouvel espace. Alors que par rapport au père, le père est binyan, bonnet, celui qui construit, qui donne une existence, qui donne un être, l'autre olam. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle la halakha a été fixée aujourd'hui par tous les grands décisionnaires en ce qui concerne le problème des mères porteuses, qu'en aucun cas une femme qui accouche d'un enfant sera l'enfant d'une autre femme, et que la mère porteuse est elle la mère selon la Torah. Ça, c'est la notion de baït, de l'espace. À l'homme, il est donné, à part une existence qui est le binyan qui a été donné par le père, il est donné un espace qui est donné par la mère. C'est la raison pour laquelle la Torah veut que l'enfant vive dans le même espace et qu'il ait les mêmes données que celles de sa mère et non celles de son père. Maintenant, il serait difficile ici d'étudier quels sont, d'après la Torah, les résultantes biologiques qui viennent du père et celles de la mère. Mais la raison pour laquelle la Torah a décidé que le judaïsme se transmet par la mer, c'est à cause de cette notion d'espace, de bayit, qu'un homme, avant d'avoir un temps, a un espace. C'est comme ça que la neshama se matérialise, et c'est ça la première donnée de la création. C'est vrai qu'il a aussi besoin du Père, et c'est la notion d'existence, de durée elle-même, mais la définition, c'est celle de l'espace. Cette donnée-là, nous ne pouvons pas la mettre en cause. Et je vais vous dire pourquoi nous ne pouvons pas la mettre en cause. Parce que la première attitude, et c'est là où la confrontation va devenir dure, c'est que nous nous disons, comme dit Maïmonide dans un des 13 articles de foi, « Ani ma'amin be'muna shelema »« Je crois d'une foi parfaite » Chez la Torah azot, que cette Torah, lo tie mukhlefet, elle ne sera pas à changer. Velo tie Torah acheret, et qu'il n'existera jamais une autre Torah. Cette notion de ad olam à tout jamais, c'est la notion de pérennité de la mitzvah. C'est une notion qui ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas, la Torah ne nous a pas été donnée pour que nous soyons juges du moment où elle peut être applicable et du moment où elle ne peut pas être applicable. C'est une donnée qui ne nous appartient pas. Lorsque l'on a donné le Brit, l'alliance avec Abraham Avinu, on lui a dit Ad Olam. Lorsque l'on parle du guerre de la conversion, on dit Chukat Olam. C'est une procédure qu'il n'appartient pas au clan Israël de changer. Mais il y a une chose qui appartient au clan d'Israël. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Vaïta av amon goyim, c'est toi qui seras le père de tous ces peuples. La Torah nous dit aussi, Ki yagur itrem ger. Lorsque l'étranger viendra habiter avec vous, on ne peut pas s'agréger à une notion qui n'est pas aussi une notion actuelle. Qui a goût itrem, lorsque le guerre, l'étranger viendra chez vous, le dorotechem dans n'importe quelle génération. Et alors Dieu dit à Abraham, va kimoti et beriti ben yu ben echa ou ben zaracha acharecha. Cette alliance, ça n'est pas seulement avec toi, c'est zaracha acharecha aussi. Ça veut dire que si on a ouvert la porte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, du côté de Dieu dans l'alliance. Béni ou Benecha, lorsque Dieu conclut l'alliance avec Abraham, il y a la deux parties. Mais lorsque viendra le guerre, lorsque viendra l'étranger, où est la deuxième partie? Et c'est là que le verset dit, Ah, Vamon Goïm, c'est toi, c'est la descendance d'Abraham Avinu. C'est pour ça que le Talmud de la Gemara, dans le traité de Kritout, au Daftet, page 9, la Gemara dit ceci. Il faut ger tsarich shlosha. Il faut trois personnes qui viennent du côté d'Akadosh Baruch Hu, qui viennent représenter Dieu dans l'alliance pour accepter cet étranger dans le clan d'Israël. Beni ou Benecha, il y a la deux parties. Qui c'est qui va être du côté de Dieu? La Gemara nous dit qui agur itrem ger. Il viendra chez vous. Chez vous, ça veut dire que c'est à vous de juger s'il est comme vous, s'il habite avec vous, s'il vous ressemble, s'il peut réécrire l'histoire comme vous l'avez écrite. Et là, nous sommes juges. Nous nous avions dit que le judaïsme échappe à la donnée du jugement dans le fait que l'on est juif aussi. Ce n'est pas seulement que lorsqu'on pratique la Torah, on est juif. C'est aussi que la naissance donne cette qualité de juif. Ça, c'est pour celui qui est né juif. Il n'y a aucun Beit Din au monde. Il n'y a aucune personne au monde qui pourra lui enlever cette qualité de juif. Mais celui qui veut venir, nous dit la Gemara, Ger Tzarir Shlosha. Là, il faut trois personnes. Et ces trois personnes, elles sont du côté de Dieu. Dans l'alliance, elles représentent Dieu. Béni ou Benecha. Et ces trois personnes-là, elles n'ont aucune autorisation, aucune licence de représenter Dieu en dehors de ce qu'il a exigé ou de ce qu'il a transmis dans la Torah. Le Dorotechem, il faudra à chaque génération des gens qui soient là. Et la Gemara nous dit trois personnes, pourquoi? Parce que pour juger de quelque chose, le minimum c'est trois. Deux peuvent arriver à une machloket, à une discussion. Deux, c'est le minimum pour une critique. Trois, c'est le minimum pour dégager une majorité. À ce moment-là, ces trois-là, et c'est là notre point de confrontation, ces trois-là ne sont pas là pour faire rentrer le guerre, pour l'accepter dans quelque chose de nouveau. Ils sont là pour lui faire refaire la même histoire, kachem, kager, ce que vous, vous avez fait, ce que vous avez accepté la Torah au Mont Sinaï, là, la même procédure est valable pour l'étranger. Personne ne pourra venir et dira qu'il vient du côté de Hakadosh Baruch Hu. Il est le béni, celui qui se tient du côté de Dieu pour pouvoir faire rentrer quelqu'un dans l'alliance et pourra dire maintenant on va conclure une nouvelle alliance. Ça, c'est une chose qui ne peut pas exister. Béni ou ben zaracha harecha, c'est quelque chose qui se perpétue de la même façon que Dieu a fait rentrer les enfants d'Abraham dans le bride, dans l'alliance. Et c'est là que nous allons voir comment on procède à la conversion. Mais là, il faut donc que le schéma soit su. Il y a deux pôles, nous avons dit. Celui qui vit en juif et qui est juif, et celui qui est né juif. Vivre en juif, ça ne peut être que selon ce que la Torah elle-même définit à Adolam à tout jamais. Et là, on ne peut pas être indifférent. Vous savez que la Torah dit « Ushmartem et mitzvotai, vous garderez ». Le mot « shamor » en hébreu, qui dit « garder, garder les mitzvot », si vous le lisez à l'envers, il y a marqué « romes », celui qui les foule aux pieds. On ne peut pas être indifférent. Ou on garde, ou on foule aux pieds. Celui qui ne pratique pas, il n'est pas indifférent par rapport à la mitzvah. Il fait que la mitzvah n'existe pas, il ne la garde pas. C'est ça la notion de l'ishmor, garder. Et je ne pourrais jamais dire que cette Torah, et ça ce que dit le Rambam, l'otie mourlefet, jamais elle ne sera changée. Elle ne sera pas changée parce qu'elle est d'essence divine. Et que je peux, moi, ou la garder, ou la fouler aux pieds. Je ne peux pas, moi, avoir une autre attitude. Le Shabbat, le Shamru Bnei Israël est un Shabbat. On peut garder le Shabbat, ou on peut le profaner, le faire chol. On ne peut pas être indifférent par rapport au Shabbat. On ne peut pas dire que c'est dimanche. On peut garder le Shabbat, ou on peut ne pas le garder. Définir un nouveau Shabbat, là-dessus il est marqué Beriti ad olam. Celui qui prend la responsabilité, il a le droit de la prendre et c'est une mitzvah. Ils doivent être trois pour la prendre. De pratiquer une conversion, c'est-à-dire de se mettre pour conclure une alliance avec le guer, avec l'étranger. Et il vient, il se place du côté d'Akadosh Baruch Hu. Il vient, il représente Dieu dans l'alliance. Il n'a aucune licence, il n'a aucune faculté. Il n'a aucune légitimité pour définir une nouvelle alliance. Béni uven zaracha le dorotechem ad olam, c'est marqué. Et c'est ce qui a conduit les chachamim à définir exactement dans la Mishnah qui nous vient à l'achat le Moshe Misinaï depuis Moïse au Sinaï d'essayer de savoir quelle est cette procédure. La procédure, elle est simple. Le verset nous dit « Kachem kager » ce que vous avez fait, le prosélyte, l'étranger, le guerre doit le refaire. Quoi ? La Gemara nous dit « Beshlosha devarim nichnesu librit » vous savez que d'être descendant d'Avraham Avinu, ça n'a pas suffi. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés jusqu'au Mont Sinaï. Et là, la Torah leur a été donnée. Celui qui n'a pas été, même s'il est descendant d'Abraham Avinu,
qui n'a pas été au Mont Sinaï, ne s'appelle pas Israël.
Il y en a eu sûrement beaucoup. Il y en a eu des descendants d'Abraham qui n'ont même pas été en Égypte non plus. Et si on étudie cette sortie d'Égypte, quel est le but de cette sortie d'Égypte?
Alors vous ouvrirez Shemot,
le deuxième livre de la Torah au chapitre 3.
Et vous verrez ce que dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Et ce que répète Moshe Rabbeinu à Pharaon. Shalach et ami, renvoie mon peuple, veyav douni, et ils me serviront. Qu'est-ce que cela veut dire servir?
Encore plus, là-bas dans le verset, Dieu dit à Moshe, Dieu dit à Moïse,
veyav douni ala harazé, sur cette montagne-là, le Sinaï.
Qu'est-ce que c'est servir? Éved.
Celui qui sort d'Égypte, c'est pour servir. Yavodou. Quelquefois on le traduit par travail. Il vaut mieux le traduire par servir. Ça veut dire que le but de la formation du peuple juif, c'est la pratique de la mitzvah.
Servir Dieu dans le langage de la Torah veut dire faire ce qu'il demande. Non pas faire en parlant, non pas une communauté de destin.
Ya'avduni.
Ya'avduni veut dire ils me serviront, ils feront quelque chose.
C'est un service divin.
C'est la justification de la création du monde.
Le verset nous dit Im lo briti yomam valaylach ukot shamayim varetz lo samti.
S'il n'y a pas l'observance de la Torah, il n'y a pas lieu de création de monde.
C'est ça la notion de service. Yahavdou.
Elle passe par l'acte.
Pourquoi passe-t-elle par l'acte?
Elle passe par l'acte
parce qu'un engagement de pensée qui ne se traduirait en aucun acte est nul.
Je peux penser comme l'autre.
Mais si ma façon de me déplacer est inverse de l'autre, la pensée n'a rien de commun.
Ya'avdou. Il y a une notion de travail. Il faut traduire cela dans la réalité. C'est ce que les enfants d'Israël ont dit. Na'ase v'nishma. On va faire. On va se conduire comme.
Se conduire comme, ça n'est que dans l'acte.
C'est vrai que si un acte ne reflète pas la pensée, ça n'est pas un acte. C'est un hasard.
D'accord. C'est ce qu'on appelle en hébreu mit asek.
Quelqu'un qui fait sans réfléchir.
Ya avdou, il y a une notion de avoda, comme le Shabbat. Il y a des travaux permis et interdits, melechet avoda. Et là est le grand point de confrontation. Est-ce que l'on peut être juif, mais que cela ne se traduise pas par une avoda?
C'est-à-dire que je pense en juif.
Cette avoda, nous avons dit, ça passe par la shmira, garder les mitzvot.
Si je ne les garde pas, je lis donc chomer de l'autre côté, romes. Je les foule aux pieds. Je me conduis autrement. Ou on garde le Shabbat ou on ne le garde pas. Si on ne le garde pas, c'est que ça n'est pas Shabbat. Mais il ne peut pas exister de Shabbat que l'on ne fasse pas.
Ça, c'est la notion de Avoda.
Alors les Chachamim sont venus et nous ont demandé. Se sont demandé, comment pratiquerons la conversion?
Ils nous ont dit un verset dans la Torah, Kachem Kager, ce que vous avez fait le refrain. Et là, nous dit la Gemara dans Kritout,
Daftet, page 9,
la Gemara nous dit ceci. Nos pères sont rentrés dans l'alliance par trois choses.
Mila,
Tevila,
la Mila, tout le monde sait ce que c'est.
La circoncision,
Tevila,
l'immersion
dans un bain
d'eau,
ve'artzat korban et le sacrifice.
Kachem kager, tout ce qui s'est passé au moment du Har Sinai, vous allez refaire le même processus. C'est ça la brite, c'est ça l'alliance. Et là, on va ouvrir une toute petite parenthèse.
La première chose, c'est la brite mila.
La brite mila est la mitzvah qui est le plus communément accomplie dans le peuple d'Israël depuis toujours. Quel est le sens de ce brite? Vous savez que lorsque l'on fait une alliance,
il y a toujours quelque chose qui scelle l'alliance
et qui exprime le brit, cette alliance.
On a un exemple.
La Torah nous dit, Vaya Be'ananil, au moment où,
après le déluge,
Dieu dit, il va y avoir un phénomène qui s'appelle l'arc-en-ciel. C'est un brit, c'est une alliance entre Dieu et l'homme. Pour dire, il n'y aura plus jamais de déluge. Un autre type d'alliance,
nous dit la Torah, brit melach,
il y a l'alliance du sel. De même que le sel ne s'altère jamais, de même, le peuple d'Israël ne s'altérera jamais. Lorsqu'il y a une alliance, il y a quelque chose qui exprime l'alliance. La mila, la circoncision, ça exprime une alliance.
Mais comment est-ce que ça exprime l'alliance? Et quelle alliance? Et là, nous avons
besoin d'un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch et qui explique
dans la mitzvah bet, la deuxième mitzvah, il explique ceci.
Lorsqu'un homme
accomplit cette mitzvah de Mila,
la circoncision, il prouve qu'il peut laisser une marque dans son corps qui est indélébile. Cette marque indélébile,
c'est la garantie
que chacune de ses actions, non pas au niveau matériel, mais au niveau spirituel, aussi est indélébile. Voilà ce que dit le Sefer HaChinuch. L'alliance qui est exprimée par le brit, par la circoncision, c'est que chaque action d'un homme
change,
on dirait, son espace spirituel. De même qu'elle change son espace matériel, elle change son espace spirituel. Et que c'est lui,
de même que c'est lui,
c'est à lui de faire la brit mila, de faire cette circoncision, c'est à lui aussi de se conduire d'une façon matériellement qui le change spirituellement. C'est donc la valorisation à l'extrême de l'acte. Le brit de l'alliance, c'est que Dieu dit que chaque acte ne sera pas en vain. Il n'y a rien qui se passe au niveau matériel qui n'ait pas une incidence au niveau spirituel. Voilà l'alliance de la brit mila. Voilà ce que veut exprimer ce brit. La deuxième chose, cette vie-là, l'immersion.
Nos chachamim nous disent pourquoi.
Parce qu'il y a marqué « Vekidashtem hayom umachar vechipsu simlotam » au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, on a demandé au peuple d'Israël de se purifier. Se purifier, c'est dans l'eau, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le mikvé, c'est la tevila. La troisième chose, c'est le korban, le sacrifice. Vayalu olot, il est dit, ils ont amené des sacrifices de Ola. Ola est un sacrifice qui est entièrement consumé. Et la Gemara nous dit, il y a marqué kachem kager. Lorsque vous ne pourrez plus offrir des sacrifices, kachem, de même que vous, vous n'avez plus de sacrifice, le guerre non plus n'aura plus de sacrifice. Et là, de nouveau, la confrontation existe. Et le problème se pose. Ça veut dire que si aujourd'hui nous ne pouvons plus faire le Shabbat, alors le guerre non plus n'a plus besoin peut-être de faire le Shabbat.
La Gemara nous dit, kachem,
tout ce qui vous est possible de faire, tout ce que vous pouvez faire, doit être fait par celui qui veut devenir juif. Aujourd'hui, nous n'avons plus le korban, nous n'avons plus de sacrifice.
Il n'y a donc plus de sacrifice à amener au moment de la conversion.
On parle de ce qui est impossible au niveau de l'histoire, au niveau du brit, au niveau de l'alliance. Il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Et là se pose le grand problème. Puisque nous nous disons que le brit, cette alliance, est Adolam à tout jamais. Nous posons donc que la Torah, l'Oti et Mouchlefet, elle ne peut pas être changée. Tout celui qui va essayer de changer quelque chose, d'enlever quelque chose ou d'en rajouter, c'est qu'il n'a pas compris cette donnée de Adolam. Et la donnée de Adolam à tout jamais l'éternité, c'est une donnée qui engage Dieu personnellement. Parce que si vous regardez le verset dans Bereshit, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Ani hinei ». Moi, me voici. Ce « Ani », cette présence divine, elle ne change pas. Elle s'exprime de la même façon et toujours. Et si vous regardez le verset dans le prophète Isaïe, au chapitre Nuntet, là-bas il est dit ceci. Au chapitre 59, le chapitre se termine comme ceci. Où va le Tzion Goel, où le Shavé fait Shabé Yaakov Neum Hashem. Où va le Tzion Goel? Il y a un libérateur, il y a le Mashiach Uva qui s'achemine. Le Shavé Fécha, il vient pour tout le monde. Même celui qui a commis une faute, le Shavé Fécha, pour tous ceux qui reviendront. Vani Zod Beriti, de nouveau, Ani. Vani, Dieu dit, je serai là, Zod Beriti, voici mon alliance. Loyamushu mi picha ou mi pi zaracha. Loyamushu. Les paroles de la Torah, le Yamushu, ne s'écarteront pas, mi picha de ta bouche, ou mi pi zaracha de ta descendance. Les mêmes mots qui ont été dits à Abraham, ou mi pi zera zaracha, me'ata ve'ad olam. De nouveau. De nouveau le Ani, et de nouveau olam. Et c'est ça la notion qui est exprimée dans le verset, dans le prophète, Ani Hashem lo shiniti. C'est-à-dire, je n'ai pas changé. Ce Ani qui se retrouve depuis Abraham jusqu'au Mashiach, Vani Zod Beriti, c'est le même Ani. Celui qui voudrait changer à cela, qui croirait que tous les Chachamim et tous les Juifs pourraient venir et changer parce que la Torah a été donnée aux hommes, c'est qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas le système depuis l'intérieur. Parce que cette question, elle va venir sur le tapis. On va décider à la majorité. On va décider qu'aujourd'hui, le juif, kachem, kager, il y a des mitzvot qui ne sont plus indispensables. Il y a une partie de la Torah que nous pouvons occulter. Il y a des choses dont nous n'avons plus besoin. Il y a des choses que nous ne pouvons plus pratiquer. Alors on va aller d'après la majorité, puisque la Torah va toujours. D'après la majorité, comme il est dit, « Acharé rabim la'atot ». Vous allez, vous irez voir. Selon la majorité, vous déciderez. Il faut savoir que les décisions qui s'expriment selon la majorité, ce sont les décisions d'interprétation de la Torah. Les décisions de mise en cause de la Torah n'ont rien à voir avec la majorité. C'est à l'intérieur du système que fonctionne la majorité. Mais de mettre en cause le système, ça n'a aucun rapport avec la majorité. Avraham Avinu était seul. C'est pour ça qu'on l'appelait Ivri. Ivri veut dire celui qui est de l'autre côté. Mais Ever Echad. Le monde entier d'un côté, Avraham Avinu de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse lorsqu'il a libéré les enfants d'Israël, voilà ce que tu vas lui dire. Hachem Elokea Ivrim. Moi je suis le Dieu de ceux qui sont de l'autre côté. Combien sont-ils? Presque rien. Même s'il ne restait qu'une seule poignée de juifs, ils seraient toujours Ivrim. Il n'y a pas de décision de la majorité pour mettre en cause le système. Il n'y a de décision de la majorité que lorsque l'on discute à l'intérieur du système. Lorsque les Chachamim discutent, pour savoir que veut dire ce verset, là, on va d'après la majorité. Mais pour savoir est-ce que ce verset est encore actuel, ou est-ce que l'on peut enrayer la moitié, là, il n'y a pas de notion de majorité. Et en fin de compte, on va être obligé d'arriver à la pratique. D'après ce que nous avons défini, et c'est comme ça que je terminerai, D'après ce que nous avons défini,
nous avons dit qu'il y a deux façons de vivre en juif, ou en tout cas d'être juif.
D'adhérer par la pratique de la Torah ou d'être né juif.
Celui qui est né juif, il lui manque une dimension lorsqu'il ne pratique pas la Torah.
Mais on ne peut jamais
lui retirer ce titre d'Israël. Parce que Dieu a dit à Abraham ben Zaracha Acharecha.
Mais celui qui veut devenir juif, celui-ci ne pourra jamais bénéficier de l'histoire. Ça ne veut rien. On ne peut pas avoir une ascendance qui n'a pas existé. On ne peut que créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau, c'est dans cet autre espace qui s'appelle la mitzvah. Et là, on va arriver à la confrontation qui est souvent dure. Ça veut dire que c'est vous qui décidez qui est juif. C'est la Torah qui décide qui est juif. Et il n'y a qu'un seul verset qui pourra en décider, Kachem Kagem. Ce qui s'est passé au moment du Har Sinaï, cela se passera toujours au moment de la conversion. Il n'y aura rien d'autre. Et là, on en arrive à une confrontation qui est dure. La Gemara nous dit, si vous ouvrez la Gemara dans le traité de Nida, Daf Yud Gimel, page 13, la Gemara dit ceci. Kashim gerim le Israël que sa parat. Mot à mot, les gerim, les convertis, kashim. Ils sont durs, ils sont mauvais pour Israël que sa parat comme la lèpre. La Gemara dit encore plus loin. Gerim akvim, ils empêchent biata Mashiach, la venue du Mashiach. De quel gerim s'agit-il? Il s'agit de celui qui s'est converti et qui n'a pas adhéré au fond. Et si vous ouvrez Maïmonide, le Rambam, dans le Mishneh Torah, Ilchot Issurei Bia, Perek Yud Gimel, le Rambam dit, tout celui qui s'est converti à cause de quelque chose qu'il a attiré qui était autre que la Torah. Là-dessus, il est dit, Kashim gerim le Israël que sa parat. Là-dessus, il est dit, gerim akvim et amashiach. C'est l'empêchement de l'aboutissement du Klal Israël. Le Klal Israël a une histoire. Et cette histoire ne s'accomplira que lorsqu'il sera redevenu lui-même. Tout celui qui agrège au peuple d'Israël des gens dont nous nous avons dit que même si la bonne foi n'est pas en cause, mais qui veulent partager un destin dont nous avons dit qu'il n'existe pas sans la pratique de la mitzvah, la pratique de la Torah, sans l'acte de ta'avodun, service de Dieu, même si les intentions sont les meilleures du monde, nous sommes obligés de leur dire, voici près de 2000 ans que la Gemara a déjà dit, me akvim et amashiach. C'est comme ça qu'on empêche la venue du Mashiach. Parce que l'histoire doit fatalement avoir un aboutissement. Il faut un jour que ce clan d'Israël aboutisse. Et si on est obligé de faire durer, durer pour éliminer tout celui qui ne fait pas vraiment partie, alors ça peut durer, durer et durer encore. Encore une fois, il faudrait que ça reste un débat d'idées. Même si quelquefois on est obligé de se confronter à la réalité politique qui n'est pas notre propos. Ça n'est pas celui-ci ou l'autre qui est en cause. La façon dont chacun pratique la mitzvah, lui est personnelle. Mais une chose doit être claire. Le bris de cette alliance, Ani Hashem lo shiniti. Ani, Dieu est présent, sera toujours le même lo shiniti, je n'ai pas changé. Ça n'est pas qu'un jour j'exigeais ceci et le lendemain je vais exiger autre chose. Ce Ani dont on a vu, qu'il est dit à Avraham, Vaani, il est répété par le prophète Yeshayahu, Vaani zot beriti me'ata vadolam. Ça, c'est une histoire qui a été écrite par Dieu dans un sens. Et ce sens-là, on ne pourra jamais le changer. Et celui qui croit qu'il change, il va changer ou il va essayer de lutter avec ce qui est pour nous l'aboutissement de l'histoire, c'est le Mashiach. Ça n'est pas tel et tel qui est en cause. Ça n'est pas tel mouvement qui est en cause. C'est le principe même. Étudier le judaïsme, ça n'est pas être juif. pratiquer le judaïsme, c'est être juif. Si tout celui qui pense en juif est juif, alors il ne reste peut-être pas beaucoup de goyim. L'étude du judaïsme, ça ne suffit pas pour faire un juif. Kachem, kager. Ce qu'on exige du juif, les 613 mitzvot, on l'exigera de tout le monde. Celui qui ne peut pas adhérer à ça, il adhère à une chimère. Même s'il est prêt, comme nous avons dit, à aller jusqu'au martyr. En vérité, il y a là une équivoque, c'est quelque chose de faux. Il y a là, on pourrait même dire que le martyr, d'un côté, est séduisant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Gemara, dans le traité de Yevamot, et ainsi le Rambam Maïmonide, dit que lorsque quelqu'un veut venir se convertir, on lui dit, qu'est-ce que tu as besoin de venir faire partie du peuple d'Israël, de Vouyim ou Sroufim? C'est des gens qui sont pressés. Et ça, c'est fait pour le dissuader, pour qu'il réfléchisse à deux fois. Parce qu'accepter la Torah, c'est quelque chose que l'on doit prendre sur soi. Aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsque quelqu'un vient nous voir et nous dit « Je veux faire partie du peuple juif », c'est parce qu'ils sont de Vouyim ou Sroufim. On dirait qu'il y a une séduction du martyr. C'est quelque chose de très équivoque, mais en vérité, c'est ainsi. Mourir en juif, ça n'existe pas. Il n'existe que vivre en juif. Et là, je vais terminer par ceci. Dans le prophète, il est marqué « Zachartila la chesed neuraïr avat kelulotaïr l'erter acharaï bamidbar be'eretz lozorua » Tout le monde connaît, c'est une haftara connue. « Zachartila » Dieu dit « Je te rappellerai, toi le clan d'Israël, je te rappellerai chesed neuraïr, la bonté de ta jeunesse. » Quoi ?« L'erter acharaï bamidbar » Tu es allé derrière moi dans le désert, be'eretz lozorua, un endroit où il n'y a pas à manger et à boire. Et les commentateurs demandent comment ? Alors que le peuple d'Israël est prêt à mourir, que la Gemara d'Anguitine nous raconte l'histoire de Chana et ses 7 fils qui ont été prêts tous à mourir pour la mitzvah, toi tu nous dis, Chesedno Rahir, voilà ce qu'a fait le clan d'Israël, une grande bonté, ils sont allés dans le désert, mais chaque juif est prêt à mourir. La réponse est simple. Mourir comme juif, ça n'existe pas. C'est vivre en juif qui existe. Zachartila Chesedno Rahir. Nos pères sont allés dans le désert, un endroit où il n'y avait pas ni à manger ou à boire. Ils ne sont pas allés pour y mourir, ils sont allés pour y vivre. D'avoir cru que la Torah était possible. D'avoir cru que les mitzvot, c'était quelque chose de possible. D'avoir cru que ce que Dieu propose, c'est quelque chose de réel. C'est ça la Torah. Ça n'est pas de mourir en juif, c'est de vivre en juif. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre une autre question que tout le monde pose. Vous savez que la Torah nous raconte que le peuple d'Israël, au moment de la création de Souf, de la traversée de la mer Rouge, il y a un homme qui s'appelait Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda qui a plongé dans l'eau. Et il y a toute une autre tribu qui était la tribu de Binyamin qui a plongé dans l'eau. Et la Gemara nous dit, c'est la raison pour laquelle Nachshon ben Aminadav a été le premier au moment de l'inauguration du Mishkan, de l'inauguration du tabernacle, a été le premier à offrir le sacrifice. La tribu de Binyamin, c'est dans sa part en Eretz Israël qu'a été construit le Beth Amikdash, le temple. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a risqué sa vie. Et de nouveau la même question. Chana veshiva banea, tu as risqué ta vie ? Ah, la grande chose. De prier Avraham Avinu, c'est quelque chose que nous avons vu. Et on pourrait dire chaque jour, on pourrait dire que l'histoire juive est jonchée de ces martyrs-là. Qu'est-ce qu'a fait le spécial Nachshon ben Aminadav? Nachshon ben Aminadav a fait quelque chose de spécial. Il est rentré dans la mer pour y vivre et pas pour mourir. Il n'est pas rentré parce qu'il croyait qu'il allait mourir. Il est rentré dans la mer, il était sûr qu'il allait vivre. C'est ça vivre en juif. Et celui qui pense qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en juif si on observe le Shabbat, qu'on ne peut pas vivre en juif si on fait toutes les mitzvot, alors celui-ci, de mourir en juif, c'est une chose qui n'existe pas. Parce que mourir en juif, on pourrait dire, c'est le comble de la vie du juif. Mais ça n'est pas quelque chose en soi. Ça, c'est une chose, c'est une équivoque qu'il faut enlever. Partager le destin, devenir et disons, et c'est ça aujourd'hui le problème, de dire, je veux partager le destin du peuple d'Israël, ça n'existe pas. Partager le destin, ça veut dire partager la mitzvah. Partager une façon de se conduire. Partager une éthique, c'est ça le destin du clan d'Israël. Mourir, c'est autre chose, c'est vivre en juif, c'est symbolique. Et la conclusion est très simple. Rabbi Akiva, tout le monde sait qu'il venait d'une famille de guérim, d'étrangers qui se sont convertis au judaïsme. Ça va faire 150 ans qu'il y a des contestations au sein du judaïsme pour savoir est-ce qu'on a besoin de pratiquer les 613 ou on peut le réduire à 600, il y en a à 500, il y en a à 400, il y en a à 300. Chacun son truc. Et on a pratiqué des conversions dans ce sens-là. C'est vrai que 150 ans, c'est pas beaucoup. Mais en 150 ans, le peuple juif a sorti des grands chachamim. En 150 ans, le peuple juif a sorti des idéalistes. En 150 ans, le peuple juif a sorti ce que nous appelons des gdolim. Où sont ceux qui sont issus de ces conversions-là? Quels sont les livres qu'ils ont écrits? Où est-ce qu'ils sont rabbanim? Où est-ce qu'ils ont ouvert des yeshivot? Ou quelle est l'idéologie dont ils ont fait les chefs? Où est-ce qu'ils sont ceux-là? Ça veut dire que même une courte période de l'histoire peut déjà vérifier que ce système-là est voué à l'échec parce que ça ne fait pas partie du Brit, ça n'est pas ça l'Alliance. Et l'Alliance, c'est ça le Ani qui a été dit à Avraham Avinu, va Ani zot briti. Cette Alliance-là, elle restera toujours la même. Nous en avons eu depuis 150 ans. Il y en a des livres qui se sont écrits. Il y a des grands chachamim qui se sont levés. Tout le monde en connaît. De parmi ceux qui sont venus de ces familles, aucun. Ça, c'est la vérification historique de ce que nous dit la Torah.
On peut remercier le Rav Eman Khazak. On va passer maintenant à une série de questions, si vous le souhaitez. On récapitule rapidement. Le soldat, Mitremet Mitzvah, le judaïsme, l'oscillation et le libéralisme, nos pauvres Ashkenazim, il y en a d'autres aussi. Quoi faire devant les libéraux? Le sacrifice, la photo et le respect sortent d'Avodah Zara, d'après ce qu'il voulait dire. L'étude, c'est pas déjà bien. L'écho médiatique, les autorités religieuses devraient prendre des résolutions certaines. Et l'enfant juif né d'une convertie.
Bon, alors je voudrais répondre d'abord à deux ou trois questions qui se rejoignent. Le fait de savoir si celui qui est mort parce que il était au milieu de la Milchemet Mitzvah, je traduirai en disant de celui qui défend son peuple. Le problème, je ne sais pas s'il faut parler justement des Ashkenazim, qui sont morts pendant la dernière guerre. Ça rejoint un petit peu le problème de ce que mademoiselle a dit, l'oscillation. Alors je voudrais être très clair là-dessus. Nous n'avons pas à juger, nous ne jugerons pas. Et je pense que c'est par cela que j'ai commencé. Nous ne pouvons pas juger, nous n'avons pas à juger, ça ne nous intéresse pas de savoir qui c'est qui bénéficie du monde futur et qui c'est qui n'en bénéficie pas. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé et j'ai dit que nos propos n'étaient absolument pas dirigés contre qui que ce soit et qu'ils ne constituaient sûrement pas une attaque en règle du judaïsme libéral. Mais attention. De dire que celui qui a foulé aux pieds, et je m'excuse, mais je suis obligé de reprendre l'expression, les mitzvot, et qui est mort pour la patrie, pour la nation, pour le peuple, celui-ci aura olam haba ou non, je dirais, ça n'est pas mon problème. Sa façon de pratiquer le judaïsme, c'est la sienne. Mais attention, qu'il ne mette pas en cause quelle est la façon exigée par la Torah? Je peux très bien dire que ma façon d'aborder la Torah est celle-ci. Je n'ai pas d'autre possibilité Je n'en vois peut-être pas d'autre. Je ne comprends peut-être pas autre chose. Je n'adhère peut-être pas au message entièrement. Peut-être que celui qui adhère un peu, l'autre beaucoup, le troisième passionnément, le quatrième pas du tout, c'est ça l'harmonie, je n'en sais rien. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, je ne dirai pas. Et ça ne m'intéressera pas de savoir si son comportement l'amène au Olam Haba ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je reste extérieur à une mitzvah, je la foule aux pieds. J'en ai peut-être de bonnes raisons. Et le fait qu'on puisse voir toutes les tendances, on peut y voir une harmonie. Mais que ça n'est pas la mitzvah, c'est clair. Que cette mitzvah n'a pas été faite, c'est clair. Est-ce qu'on a des excuses? Ou est-ce qu'on peut même être, je dirais même plus, en hébreu on dit être cholek, c'est-à-dire divisé par rapport à ce que la Torah enseigne? C'est le reshout, c'est la permission qui est donnée à chacun. Mais sur ce que la Torah nous enseigne, nous devons être clairs. Lorsque je ne fais pas une mitzvah, par rapport à la mitzvah, elle est foulée aux pieds. Par rapport à moi, c'est un autre problème, et là, je n'en jugerai pas. Donc la raison pour laquelle je me suis exprimé de cette façon, et on est obligé de s'exprimer de cette façon, c'est pour que les choses soient claires et nettes, mais ça ne constitue en aucun cas un jugement de qui que ce soit, ni une opinion qu'on soit en droit de se faire ou en devoir de se faire sur le Olam Haba, le mérite de chacun. Et là, je vais rejoindre la question de mon ami Benny Cohen. Faire la guerre contre des personnes, c'est la chose la plus facile. Faire la guerre contre les idées, c'est la chose la plus difficile. Il y a un moment, et c'est ce que vous dire à chaque politicien, où la personne et l'idée se confondent. Et c'est là où il faut être très clair. Le peuple d'Israël, et nous avons été très clairs depuis le début, Israël a falpi shechata. On peut ne pas être d'accord avec l'expression, mais c'est l'expression de la Torah. Israëlou. C'est-à-dire que je considère qu'il s'agit d'un chet, il s'agit d'une faute. Il reste à mes yeux, et c'est pourquoi nous avons défini qu'il existe un judaïsme qui est le judaïsme déterminé par Dieu, celui de la naissance, que je ne jugerai pas. Je n'exclurai personne, mais attention. Si quelqu'un vient et me dit « Je suis converti », j'exigerai, je serai en droit d'exiger, c'est mon devoir d'exiger, qu'il me montre en quoi, selon le système, est-il converti. Il a besoin de trois, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'adhésion du clan d'Israël. Et cette adhésion du clan d'Israël, il ne suffit pas d'être né juif pour pouvoir la donner. Il faut aussi être chômeur et pas le contraire. Et là vient le point de rencontre entre l'idée et la personne. Là, je vais, oui, être juge. Là, je vais me permettre de dire que celui qui pratique des conversions qui ne sont pas faites selon la halakha, la conversion qui a été pratiquée est nulle et non avenue. Là, je ne peux pas dire qu'il y a une harmonie. Là, je ne peux pas dire Israël a falpi shechata Israëlou, parce que là, il a engagé quelqu'un de l'extérieur. Et celui qui est engagé de l'extérieur, c'est mon devoir de lui dire, tu n'es pas juif. C'est mon devoir de lui dire que vous savez que, ça n'est pas notre propos maintenant, mais l'alachae, nochri sheshava trayav mita. De même qu'il est interdit pour le juif de profaner le Shabbat, il est interdit pour le non-juif de garder le Shabbat. Et c'est une mitzvah pour moi. Je suis obligé, moi, d'aller chez lui et de lui dire, attention, toi qui as été converti de cette façon, rappelle-toi de fumer une petite cigarette le matin avant la tfila, parce que nochri sheshava trayav mita, tu n'es pas juif. Parce que si je ne suis plus le juge de celui qui est juif et de celui qui n'est pas, alors
c'est que les paroles de la Torah manquent. Benecha ou ben zaracha acharecha.
Qui est la descendance d'Abraham Avinu?
Celui qui est d'accord de prendre sur lui les mêmes mitzvot qui ont été pris par nos ancêtres au Har Sinaï, ou celui qui peut-être ajoute à l'harmonie des juifs, mais en tout cas n'a aucune capacité, aucun droit de venir et de se placer en tant que juge pour une conversion.
N'a le droit de se placer en tant que juge pour une conversion que celui qui accepte et qui pratique et qui fait tout son possible pour maintenir le judaïsme et pas celui qui le foule aux pieds.
Maintenant, que pour lui-même cela ne s'appelle pas fouler aux pieds, que lui-même ait non seulement des excuses et une autre interprétation, ça c'est un autre problème. Et je ne le juge pas là-dedans, mais je juge sa capacité d'introduire d'autres dans le peuple d'Israël. Donc là, je veux que les choses soient claires. Mais nous avons dit qu'il y a un moment, et c'est ce qu'on appelle la politique, où les hommes et les idées se rejoignent. Et là, on va toucher à la dernière question. Nous nous disons, me hat mina or, doche arbe mina chosher. Un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas peur des moyens médiatiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous refusons le vote à la majorité. Lorsqu'il y a vote à la majorité, chacun a intérêt d'utiliser les moyens médiatiques les plus importants pour pouvoir obtenir gain de cause. Nous nous refusons ce système-là. Et je dirais même plus, que tout ce qui sera voté à la majorité ne nous engagera pas. Parce que ça fait longtemps que les chrétiens ont voté à la majorité que les juifs n'ont pas le droit de vivre. Et ça ne nous engage pas non plus. Qu'il y ait un intérêt politique à faire barrage à certains projets de loi, on peut le concevoir. Mais de croire que lorsque l'on aura perdu, on aura perdu une bataille, c'est faux. La seule chose qui arrivera, c'est que cette loi qui sera votée à la majorité, je ne souhaite pas, mais c'est possible que cela soit. Et il faut ouvrir les yeux, il faut savoir que c'est possible que cela soit. Et il sera peut-être voté à la majorité en Eretz Israël à la Knesset, que juif est celui qui se déclare juif et veut faire partie du destin d'Israël, veut rentrer dans l'armée israélienne. Peut-être que ça suffira. Il n'en reste pas moins qu'il ne sera pas accepté dans le clan Israël au moment où il voudra se marier. Au moment où il viendra, et là, il aura besoin d'une autorité rabbinique. Ou alors, il va créer un autre judaïsme. Et nous n'avons pas peur de ça. La différence entre la politique et l'enseignement, c'est que l'enseignement ne passe pas par les voies médiatiques, alors que la politique y passe. L'enseignement me hâte mina or, doche arbe mina chosher. Et l'enseignement passe par tout autre voie. Quelquefois, ça passe aussi par les médias, puisque nous aussi, nous nous efforçons. Je vois que M. Groner est très affairé. Et toutes les cassettes, ce sont des choses qui participent à la diffusion. Mais attention, il y a dans l'enseignement quelque chose de plus que la diffusion. Il y a dans l'enseignement une réalité, une complicité de maître à élève qui fait qu'une idée passe ou ne passe pas. Lorsque l'idée passe, ça n'est pas que j'ai convaincu quelqu'un pour une seconde. Je ne l'ai peut-être pas convaincu d'aller voter. Mais je lui ai enseigné quelque chose, et ce quelque chose, il le sait. Le chemin que fera cette idée-là, je n'en suis pas le maître, mais je l'ai enseigné. Et ça, c'est mon devoir. D'essayer de savoir si je l'ai convaincu ou non, c'est son problème, ça n'est pas le mien. Alors que lorsque je passe par une voie médiatique, c'est le contraire. Le problème n'est pas l'enseignement, le problème c'est de convaincre, même si c'est à tort. Et même si quelquefois, et on l'a vu, les élections se passent comme cela,
On amène des gens qui ne sont aucunement concernés. Puisque le problème, c'est d'avoir des voix, ça n'est pas d'enseigner. Les deux chemins sont totalement opposés. Quel est notre intérêt ? Il est double. C'est vrai que pratiquement notre intérêt, c'est qu'une loi pareille ne passe pas. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que ça nous enlève beaucoup d'embêtements. Mais d'avoir peur qu'une telle loi passe, on n'a pas peur de ça. Nous n'avons pas peur de la majorité. Et Elokea Ivrim, Dieu est le Dieu à Ivrim, de ceux qui sont de l'autre côté. Je dirais de ceux qui sont seuls. Nous n'avons jamais eu peur de ça. Ki atem ameat mikol ha'amim. On a toujours été le plus petit parmi les peuples, et quand même on a duré le plus longtemps. On n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Le problème est ce que l'enseignement a intérêt à la voie médiatique. Personnellement, je ne le pense pas, parce que ça n'est plus un enseignement. C'est un véhicule de quelque chose de pragmatique, de quelque chose qui ne dure pas. Maintenant, si on pouvait concilier les deux, alors ce serait ça la mitzvah d'enseigner. Donc là, il faut être très clair encore une fois. S'il s'agit de la politique, nous n'avons peur de personne. On peut faire passer 20 lois, 30 lois, 40 lois. Jamais. Et ça, que tout le monde en soit conscient. Parce qu'il faut savoir que cette question est vieille. Elle a déjà été posée il y a plus de 20 ans par Ben Gurion. Et il l'a posée à ce qu'il appelait les sages d'Israël. Il a pris un certain nombre de personnalités connues dans le monde juif. Et il leur a posé la question de savoir qui est juif. Et la réponse quasi unanime a été: ne t'avise pas à changer l'halakha, parce que l'halakha ne nous appartient pas, elle t'appartient pas à toi. Tu peux marquer sur la carte d'identité israélienne juif, pas juif, cela ne changera jamais à rien. Seulement une chose, de faire croire à quelqu'un qu'il fait partie du peuple juif, et malheureusement un jour il sera repoussé. Parce que le jour où il voudra se marier, le jour où il voudra avoir affaire vraiment avec le judaïsme, à ce moment-là, il sera obligé de se convertir, lui qui s'est toujours considéré comme juif. Ça a été la réponse quasi unanime. Et la loi n'y changera rien. Qui est la Knesset marquée comme ceci ou comme cela, c'est une chose qui ne changera rien. Il est vrai que c'est plus pratique que ça ne soit pas marqué que juif est celui qui se considère comme juif. Maintenant, il y a une question que j'ai effleuré et qui vaut la peine d'être un peu plus développé, mais je ne sais pas si on a le temps. C'est ce qu'on a dit, de même que le korban, de même que le sacrifice n'existe plus, de même, peut-être que le Shabbat n'existe plus, puisque tout le monde sait que le jour où on fait le chiffre d'affaires le plus important, c'est le Shabbat. Alors, kachem, kager ? Et c'est une grande question, ne croyez pas. On a parlé des photos. Les photos, je ne voudrais pas tellement m'étendre sur le sujet. Ça fait l'objet de beaucoup de tchouvot, de shélot ou tchouvot, de responsables rabbiniques sur le sujet. La plupart des postes qui me le permettent et disent que ça ne constitue pas une effraction à ce qui est marqué dans la Torah de ne pas faire d'image. Vous regarderez le Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais la plupart des poskim sont d'accord sur ce sujet-là. Beniko a parlé d'Avodah Zara, c'est encore un autre petit problème, mais je ne voudrais pas tellement rentrer dans ce problème-là. Parce que c'est un problème de fond. Quelle est la mitzvah qui a lieu aujourd'hui ou qui n'a pas lieu aujourd'hui? Il n'y a aucune mitzvah qui n'a plus lieu aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le traité de Shekalim, dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud Yerushalmi, au sixième pérek, il est raconté une histoire. Au moment de la destruction du temple, lorsque le Echal était le bâtiment qui renfermait la menorah, qui renfermait le Shulchan, qui renfermait le Aaron, le Echal, au milieu du temple, commençait à brûler. Il y a un Kohen qui est monté sur le toit, qui a tendu la clé vers le ciel et qui a dit: tant que tu avais confiance en nous pour amener les sacrifices, nous les amenions. Maintenant que tu n'as plus confiance en nous, nous te rendons les clés. Et la Gemara raconte là-bas qu'il y a une main qui est descendue du ciel et qui a pris les clés. Si un jour en notre âme et conscience. Nous pourrons dire, de même que les sacrifices, lorsque le temple a été détruit, que Dieu ne voulait plus des sacrifices. Si un jour nous pourrons dire en notre âme et conscience que Dieu ne veut plus du Shabbat, alors que se lève celui qui pense vraiment qu'il n'est plus possible d'observer le Shabbat, qu'il aille, qu'il tende la clé vers le ciel et on verra si une main s'étendra. Qui c'est qui peut déterminer qu'il est impossible de pratiquer une mitzvah? Celui qui a tout essayé pour la pratiquer et qui n'est pas arrivé. Mais nous voyons que celui qui essaye de le faire y arrive. C'est vrai que cela pose des problèmes. C'est vrai qu'il peut y avoir des inconvénients. Mais ça n'est pas un inconvénient matériel et majeur comme en ce qui concerne les corbanotes. Les corbanotes, les sacrifices ont été annulés à la destruction du temple. Le Shabbat ne sera jamais annulé. Parce qu'à propos du Shabbat, il est marqué « Béni ou bénéchem, le dorotam berit olam » Jamais. Ça, nous en sommes sûrs. Et même si quelqu'un a des difficultés, ça n'est pas une raison pour, entre parenthèses, réformer le judaïsme. Là, il faut être très clair. Que celui qui se dit libéral, parce qu'il ne conçoit pas de façon exacte de pratiquer le judaïsme, le fasse. Que celui qui se dit libéral pour lui-même, n'en fasse pas un système. C'est contre le système que nous nous battrons. Et nous dirons même plus, nous n'avons même pas besoin de nous battre. Parce que contre ce système-là, nous avons notre propre système. Et notre propre système a 3000 ans d'histoire. Et tous les nouveaux systèmes se sont toujours heurtés à cela. Et ils n'ont jamais duré, et nous n'avons pas peur de ça. Ce que nous avons peur, c'est qu'il y ait un véritable schisme dans le clan d'Israël. Ça, nous ne le voulons pas. C'est la raison pour laquelle quelques-uns pensent qu'il est judicieux d'employer des moyens politiques. Mais de toute façon, il faut savoir une chose. C'est que la promesse que le clan d'Israël durera toujours, ça n'est pas nous qui l'avons donnée, c'est Dieu qui l'a donnée. « Va'ani zot briti otam amar Hashem, ruchi asher olecha odva asher samti beficha » C'est Dieu qui parle, ça n'est pas nous. Et de même qu'au Beth Amikdash, lorsqu'on n'a plus pu offrir les korbanot, on a rendu la clé. Si aujourd'hui nous ne pouvons plus pratiquer la Torah telle que nous devons la pratiquer, nous ne la réformerons jamais. Mais nous rendrons les clés. Parce que ça n'est pas à nous de nous soucier de l'avenir du clan d'Israël. Nous devons nous soucier de la transmission de la Torah telle qu'elle nous a été transmise par nos pères. Ça n'est pas à nous à nous dire qu'elle ne peut plus être transmise aujourd'hui, on va en transmettre que la moitié ou le quart ou les trois quarts. Ça n'est pas à nous de la réformer. Si nous n'arrivons plus à faire quelque chose, nous avons le droit de baisser les bras et nous pouvons rendre les clés. Nous ne sommes pas responsables du judaïsme. Nous ne sommes pas responsables du peuple d'Israël. Nous sommes astreints à l'enseigner tel qu'il a été enseigné par nos pères et tel qu'il sera toujours enseigné. Celui qui pense que le message ne passe plus, qu'il rende les clés. Il peut rendre les clés, mais il n'est pas obligé de changer le message. Surtout, il n'est pas obligé, il n'a pas le droit d'affiner le message au point qu'il passe sous la porte de n'importe qui. Il n'a pas le droit de réduire la Torah à ce que lui pense être la Torah facile et possible aujourd'hui. S'il n'arrive pas à la transmettre telle qu'il a reçue, il n'a qu'à déposer les clés. Dieu trouvera d'autres pour le faire. C'est lui qui a promis que le clan d'Israël existerait. C'est lui qui a dit à Adolam, ça n'est pas moi qui l'ai dit. Ça n'est personne d'autre qui l'ai dit. Et personne n'a de responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est de le transmettre tel qu'il nous a été donné. Mais nous n'avons pas, ça n'est pas nous qui écrivons l'histoire, et ça n'est pas nous qui sommes responsables de l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous répugnons à ces moyens médiatiques, parce qu'en vérité, ils visent vers un but qui justifie énormément de moyens avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord. Et ce but, c'est la pérennité du judaïsme. Nous ne sommes pas responsables de la pérennité du judaïsme. Nous n'avons promis à personne que les juifs existeraient jusqu'à la venue du Mashiach. C'est Dieu qui l'a promis, ça n'est pas nous. Nous, ce que nous sommes obligés de faire, c'est notre mitzvah. L'ilmod étudié ou le lamed est enseigné. Et attention, en cela, je voudrais répondre à la question qui était est-ce que étudier sans pratique, ça n'a pas de valeur? Ça a énormément de valeur. Seulement, ça n'a de valeur que si mon étude, je peux le mettre en pratique. Si l'étude reste une théorie, mais que je n'arrive pas à vivre selon cette étude, c'est une étude qui est stérile et qui n'a aucune valeur. C'est pour ça que dans la Torah, vous verrez toujours marqué
l'ilmod ou le lamed,
l'ishmo ou la sot,
étudier, enseigner,
garder et faire.
C'est ceci notre devoir de transmission. D'étudier, c'est quelque chose qui a énormément de valeur.
Au point qu'il y a une discussion entre les Chachamim, est-ce que Talmud Hadif ou Maaseh Hadif, vaut-il mieux étudier que pratiquer?
Mais tout le monde a été d'accord que Talmud Hadif, pourquoi vaut-il mieux étudier?
Parce que Gadol a Talmud Amei Vili de Maaseh, parce que la fin de l'étude, c'est la pratique.
C'est le but.
Si on n'arrive pas à ce but-là, c'est qu'il manque dans l'étude.
Donc on n'a jamais dit que l'étude n'avait pas de valeur. On n'a jamais dit que chacun n'a pas le droit de concevoir sa façon de pratiquer et de voir le judaïsme.
Mais de l'ériger en dogme, de venir et de dire le judaïsme a changé, de venir et de réduire le message ou de l'augmenter de quoi que ce soit, personne n'a cette autorisation parce que personne n'est responsable.
Et celui qui croit qu'il est responsable, c'est parce qu'il a un souci qui n'est pas le sien.
C'est le souci de la pérennité du judaïsme, c'est le souci de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est la mitzvah qu'il nous a donnée.
Ça, c'est marqué, et par ça, je voudrais terminer,
en disant que la chose, elle soit claire.
Celui qui s'est converti, une femme qui s'est convertie, en ça, je répondrai à la toute dernière question, une femme qui s'est convertie au judaïsme, son enfant est un juif gamour entièrement. Ça, ça doit être clair. Quelle est la définition de la conversion? C'est là où nous disons, regarde le verset, kachem, kager. De la même façon que ça s'est passé pour le cas d'Israël,
ça se passera toujours.
Mais que quelqu'un qui est converti, ses enfants, ce sont des Gerim Gemurim, c'est-à-dire ce sont des juifs à part entière. Il est marqué dans le Mizmor, dans les Teilim, le Mizmor que nous disons le vendredi soir, qui traite du Har Sinaï, du don de la Torah. Tout le monde le connaît. Avul Hashem Bnei Elim, Avul Hashem Kavod Vaoz. Il y a marqué là-bas, Kol Hashem Alamayim, Ela Kavod Irim, Hashem Almayim Rabim, Kol Hashem Bako.
Ça veut dire qu'au moment du Har Sinaï,
au moment où Dieu s'est révélé, il a révélé la Torah, il y a eu un bouleversement dans le monde entier. Kol Hashem Alamayim, l'eau s'est arrêtée de couler.
Kol Hashem Bakoach,
la voix céleste s'est fait entendre dans le monde entier.
Le Midrash nous dit, Tzipor lo tziyet, l'oiseau s'est arrêté de chanter.
Serafim lo amrushira les chérubins n'ont plus dit de louanges.
Tout s'est arrêté.
Et qu'est-ce que le verset nous dit?
Hashem oz lamoiten, Hashem yevarer et amo bashalom.
Les peuples ne savent souvent pas comment se conduire. Ils n'ont pas de Torah. Ils n'ont pas de référence.
Nous avons une conduite qui est de la nôtre.
Que le monde soit bouleversé comme au moment du don de la Torah au Sinaï.
Nous avions une mitzvah.
La mitzvah, Agbel et
Tahar, Misaviv.
Le peuple d'Israël devait rester en retrait.
Et la Torah a été donnée à Moïse qui a retransmis cette Torah au clan d'Israël.
Hashem Oz la Moïte, nous dit le verset.
Hashem Oz, Dieu a donné la Torah à son peuple. Oz, c'est la force. Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Ça veut dire qu'il n'y a pas à hésiter. On sait toujours quoi faire. Il n'y a pas de position à prendre. Il n'y a pas de politique à essayer de trouver. Hashem yevarech et amo bashalom, que l'on se conduise selon la mitzvah, selon ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est ça la réussite du peuple juif. Nous avons une référence, nous avons la Torah. Nous savons comment nous comporter. L'histoire, ça n'est pas à nous de l'écrire. Les autres peuples ont le problème de l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas de référence. Nous avons notre référence et nous n'avons pas ce problème.
Très bien.